Dans l'actualité des IT, dans la deuxième partie de cette grande table, faut-il sauver le progrès? C'est la question levée par l'essai paru à la découverte du sociologue allemand Peter Wagner, notre invité ce midi, spécialiste de la modernité et professeur à l'université de Barcelone. Sauver le progrès ou comment rendre l'avenir à nouveau désirable? Pour Peter Wagner, le progrès est nécessaire. Reste à savoir comment le rendre possible. Libérer nos imaginaires, redonner toute sa place à la critique, deux pistes à explorer selon le sociologue pour qui un des rêves de la raison tel qu'envisagé par les Lumières était que l'humanité se mette sur le chemin du progrès perpétuel. Deux siècles plus tard, nous ne savons que faire de ce rêve. Voilà pourquoi il faut le recréer et on va voir avec vous comment. Bonjour Peter Wagner.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Une première question en préambule qu'on pose à tous nos invités dans cette émission. Pour vous, sociologue ou citoyen, comment allons-nous? Alors, vu votre parcours, j'imagine que ce « nous » sera plutôt européen, mais comment vont nos sociétés aujourd'hui?
Oui, si ce « nous », c'est « nous européens », pas trop bien, je dirais. Parce que même si à l'apparence, on vit dans une normalité, ou presque normalité, pas tout à fait, avec les problèmes de l'économie, de sécurité, mais c'est plutôt, parfois, on a l'impression qu'il faut se demander quel est le moment avant que quelque chose de plus dramatique se passe. Et c'est, je pense que c'est une question pour aussi pour les historiens, parce que si on pense, par exemple, à la situation européenne en 1913, il y avait une certaine normalité. Non, il y avait des problèmes, tout ça, mais il n'y avait pas de catastrophe. Et un peu après, il y en avait. Et parfois, je pense qu'il faut se demander une telle question, parce qu'on a en Europe une accumulation des événements critiques. Peut-être on commence avec les référendums en France et aux Pays-Bas, et la crise de l'euro, la crise des réfugiés maintenant, le référendum en Grande-Bretagne. Donc, se cumule. On trouve des solutions partielles, pas très satisfaisantes, mais on les trouve. Mais le cumul crée quelque chose d'autre. Donc, je pense que c'est dangereux. Je pense qu'on vit en général dans une situation potentiellement dangereuse.
Il y a des ingrédients qui peuvent être perçus pour vous comme des signaux qu'on serait aujourd'hui dans une période, dans un temps, dans une époque un peu charnière et qui devraient nous alerter à vous entendre. Mais en dehors de la situation politique, économique, voire sécuritaire, dans nos têtes, est-ce que vous avez le sentiment que germe quand même à nouveau une envie peut-être d'idéal ou des idéaux qui sont vivaces et qui peuvent peut-être nous extraire aussi de tout ça?
Oui, je pense que si on prend les crises une par une, ils n'ont pas une grandeur qui doit être catastrophique. Mais je pense que ce qu'on voit, il y a des approches à ces crises qui sont si clairement insuffisantes que qu'on se demande qu'est-ce qui s'est passé, qu'il n'y a pas d'orientation générale, comment on s'approche à ces problèmes, comment on va les résoudre. Il y a une désorientation générale, et donc on ne sait plus d'où on vient et où on veut aller. Et donc je pense que c'est le problème de fond.
Dans Le Monde, ce mois-ci, Peter Wagner, vous co-signez une tribune où vous soulignez la perte d'autodétermination collective parce que les pratiques capitalistes, quelque part, échappent au contrôle des institutions démocratiques. Qu'est-ce qu'on gagnerait, selon vous, à réintégrer l'économie, notamment, dans les institutions politiques et sociales pour tenter de contrer ce que vous appelez dans cette tribune le recul de la démocratie?
Oui, je pense qu'il y a un paradoxe dans notre temps, un paradoxe politique dans notre temps, parce que d'un côté, le monde en général est plus démocratique que jamais. Il y a, si on compare avec la situation d'il y a un demi-siècle, par exemple, il y a beaucoup plus de systèmes politiques démocratiques, il y a moins de dictatures, moins de régimes autoritaires, donc il semble que ce que les politologues appellent la démocratisation, ça avance. Mais de l'autre côté, dans les démocraties, il y a très peu à décider parce qu'on voit que les gouvernements élus démocratiquement, ils n'ont plus la capacité ou n'osent plus à vraiment décider sur le destin collectif. Et à ce moment, il y a cette désaffection des citoyens qu'on voit dans la montée des populismes. Et ça veut dire que à ce moment, il y a le paradoxe, c'est le fait que les procédures, les institutions de l'autodétermination, de la démocratie existent, mais les pratiques n'existent pas pour vraiment déterminer ce qu'on veut.
Ce qu'on a pensé jusqu'ici, c'est que la démocratisation allait de pair avec le progrès économique. Une société plus prospère aboutissait aussi à des révolutions, entre guillemets, démocratiques, en tout cas à installer ces processus. Aujourd'hui, vous dites, on a quand même perdu le contrôle de ce levier, de cet outil démocratique. Enfin, c'est nos gouvernants, nos institutions représentatives ont laissé cet outil qui est indispensable entre les mains du marché, finalement. Ce qui amène à une sorte de perte, dégringolade sociale sur ces questions-là aussi. C'est ça l'idée ?
Oui, je pense qu'en fait, l'idée que le progrès économique et le progrès politique vont dans le même chemin, dans la même direction, c'est très erroné. Je pense que il y a quelque chose de vrai dans la présupposition qu'une situation d'une certaine abondance ou du moins une absence de pauvreté facilite la délibération démocratique. Mais au-delà de ça, ça dépend beaucoup de la façon dont la richesse économique est créée et distribuer après. Donc il n'y a pas d'automatisme entre le progrès économique et le progrès politique. Donc c'est pour cette raison qu'il faut repenser ce lien entre démocratie et capitalisme. Et on voit à ce moment que ce qu'on a pensé en général, disons, l'opinion publique, les élites politiques et la science politique, ils ont pensé que l'État-nation démocratique et capitaliste est la solution historique qui a réussi à coordonner l'action économique et l'action politique. Mais on voit maintenant que ce n'est pas le cas. C'était une solution temporaire qui a fonctionné assez bien dans l'Europe ou dans le monde occidental pour quelques décennies, mais qui n'a jamais bâti sur des fondements solides et durs. Et un des grands problèmes, c'est que c'est exactement qu'on a maltraité le lien entre l'économique et le politique en disant que si on crée une certaine affluence, la loyauté démocratique des masses va aller en pair. Et c'est tout simplement pas le cas.
Et le social. Récemment, au printemps dernier, 300 chercheurs ont annoncé leur intention de rédiger un manifeste pour le progrès social avec différentes échéances pour arriver début 2018 à la publication d'un rapport et d'un livre sur ce progrès social sous la houlette de Amartya Sen, le prix Nobel, des chercheurs internationaux, c'est-à-dire qui se réuniraient autour de cette idée. Pour eux, il faut retrouver absolument aujourd'hui le sens du progrès social comme une réponse à l'anxiété peut-être qu'on a évoqué ensemble en début d'émission, qui gangrène nos sociétés. On est face à une pénurie d'alternatives pour vous aujourd'hui ?
Oui. C'est une des raisons pour
faire vous cet, avez essai. Fait cet essai.
Oui, et aussi de participer à ces débats parce que je pense que c'est nécessaire et c'est urgent parce que avec l'abandon de cette croyance dans le progrès historique, le progrès de l'humanité, on a perdu les registres pour se situer dans les temps et se situer en face des problèmes. Et cette tentative, ce panel sur le progrès social, est un projet qui cherche à joindre des gens qui s'occupent de cette question des endroits divers et avec des compétences différentes, mais de les mettre ensemble pour voir si on peut globalement développer du moins les contours d'une nouvelle perspective, d'une nouvelle orientation.
Vous y serez associé ?
Oui.
Oui, et c'est justement les jalons ou les bases de ce projet que vous posez donc en partie dans cet essai, Sauver le progrès, comment rendre l'avenir à nouveau désirable. C'est pas tous les jours qu'on a un spécialiste de la modernité et du progrès avec nous. Donc on va essayer de comprendre avec vous ce que vous entendez déjà par progrès, parce que il y a une acceptation habituelle qui ne vous convainc pas totalement, puisque vous proposez justement à travers cet ouvrage de redéfinir le progrès, de lui redonner un autre sens. Alors, comment entend-on habituellement le progrès ?
Oui, c'est une question qu'il faut déjà situer dans le temps, parce que je pense, aujourd'hui, quand on demande dans la rue, par exemple, il n'y a plus d'idées claires du progrès, et pas non plus des attentes du progrès, en général.
Alors, je vais peut-être incarner un peu la rue, mais je vais vous dire que pour moi, le progrès est quand même intimement lié d'abord à la science. Le progrès, c'est les révolutions industrielles, c'est l'électricité, c'est le rail, voire aujourd'hui Internet. C'est l'idée qu'on passe aussi à une étape, une marche supplémentaire d'une génération à l'autre, un accès supérieur à la connaissance. Et c'est ce qui nous rend, nous, individus, plus libres, quelque part. Mm. Est-ce que j'ai tort?
Non, ça reste vrai, mais avec les expériences qu'on a fait historiquement avec cette conception du progrès, cette idée est devenue beaucoup plus ambivalente. D'abord, je dirais que vous parlez d'une dimension du progrès. C'est le progrès dans la connaissance et le progrès dans la maîtrise de nos vies en termes des besoins matériels. De ce côté, il y a du progrès et il y a du progrès continu. Mais maintenant, on sait que ce progrès a aussi un prix. Et les problèmes qu'on a avec la situation de notre planète, avec les changements climatiques, avec les problèmes de l'environnement en général, nous montrent l'ambivalence de ce type de progrès. D'un côté. De l'autre côté, la connexion entre ce type de progrès et la liberté est aussi plus problématique aujourd'hui. Vous avez tout à fait raison. Historiquement, on avait fait ce lien et on a pensé que la maîtrise de la nature et une meilleure satisfaction de nos besoins matériels nous guide vers une plus grande liberté. Mais les expériences avec la liberté. Donc, on a historiquement une croissance de la liberté en général, pas sans obstacles, sans revers, mais on l'a. Mais aussi dans ce contexte, il y a une ambivalence dans le sens que les sociétés modernes ont aussi créé avec la liberté ce que Durkheim appelait l'anomie ou le conformisme, un type de individualisme qui mène à l'aliénation. Donc la liberté non plus est sans ambivalence.
Et vous faites justement, vous racontez que depuis les Lumières, le progrès est quelque part dans cette articulation entre la liberté, autonomie d'un côté et la raison. Kant fait ce lien. En quoi ça ne constitue pas pour autant pour vous une mécanique à succès, en fait, cette articulation?
Oui. Je pense que les Lumières en général, et peut-être Kant a mis cette idée au point, est dans cette sens génial, en pensant que nous, êtres humains, nous sommes raisonnables, nous avons la capacité de la raison et la capacité d'être libres. Et cette combinaison nous mènera dans une direction de progrès, parce qu'on va utiliser nos capacités intellectuelles et on le fait librement. On peut identifier les problèmes à résoudre et on trouve les solutions, on choisit les solutions librement. Mais Kant pensait qu'il vivait au début d'une nouvelle ère et il a eu raison dans certain sens. Il y avait des grands changements, transformations sociales, économiques et politiques après. Mais il n'a pas vu que ces transformations ne mènent pas directement dans une société des êtres humains libres et raisonnables. Parce qu'il y a le fait de la domination qui persiste, qui a persisté pendant 2 siècles après Kant. Et donc le mécanisme dont vous parlez, le mécanisme du progrès, était tout un autre mécanisme. C'était pas le mécanisme de la connexion entre liberté et raison. C'était un mécanisme entre la domination, qui aussi mène à la maîtrise de la nature, par exemple, et la résistance contre la domination. C'est le mécanisme qui, historiquement, a produit le progrès qu'on a eu. Mais ce progrès va de pair avec les ambivalences dont je parlais avant.
Et quand vous parlez des formes de domination, vous pensez auxquelles?
Historiquement, et je vais revenir là-dessus un peu plus tard, historiquement je parle de ce que j'appelle une domination formelle. Et ça veut dire c'est une domination qui se base sur une catégorisation des êtres humains, une distinction entre catégories d'humains, par exemple hommes et femmes, ou les blancs et les noirs, ou les entrepreneurs et le prolétariat, qui va avec des justifications pourquoi une telle domination est juste ou nécessaire même. Et historiquement, c'était le cas en 1800, après la Révolution française et dans l'ère du colonialisme. Et donc, on n'est pas arrivé directement après les Lumières à une société des êtres humains égaux et libres. Plutôt, le chemin historique des deux siècles après était formé par la résistance contre ces formes de domination. On voit bien clairement, par exemple, dans les débats autour de la Révolution française, que tous ces justifications de la domination étaient effectivement critiquées à la fin du XVIIIe siècle. Mais ils persistaient, pas seulement pour raison de force et pouvoir, mais aussi en termes de justification. Et ceci a changé récemment. Mais historiquement, le progrès qu'on a eu était le progrès comme résultat de ces formes de domination et la résistance contre cette domination.
Face à cet épuisement du progrès, quelque part, Peter Wagner vous dit donc qu'il va falloir essayer de commencer à repenser cette définition. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien que le terme même de progrès ne fait plus consensus nulle part, même pas chez les progressistes ou ceux qui s'appellent comme tels. Ça veut dire quoi? Que c'est devenu une sorte de concept un peu mou, illisible, ou alors un concept fermé? Pour sauver le progrès, d'après vous, il faudrait donc commencer par le redéfinir. Comment on s'y prend?
Oui, le problème, je pense, c'est exactement là où je pense qu'on a perdu cette idée ou cette croyance dans le progrès parce que on a eu une certaine réussite historique dans la résistance contre la domination. Et cette réussite n'est pas arrivée il y a deux siècles, mais il y a quelques décennies, à partir des années 70-80. Je prends toujours l'exemple de l'apartheid en Afrique du Sud comme une situation clé. Parce que nous savons maintenant que c'était à la fin des années 80 que les Blancs sud-africains ont dû abandonner le régime d'apartheid. Mais c'était vraiment l'ultime vestige d'une domination formelle dans les termes que j'utilise. Et déjà dans les deux décennies avant, c'était discrédité dans tout le monde. Donc le régime d'apartheid était isolé. Et on voit en général dans les mouvements de libération nationale, comme on dirait, de décolonisation, le mouvement féministe, le mouvement de gauche en général, aussi dans un certain sens dans le mouvement écologiste, que toutes ces formes de domination, inclus la domination de la nature, ont été critiquées et dénoncées effectivement. Donc aujourd'hui, une domination formelle n'est plus justifiable. Elle existe encore, mais n'est plus justifiable. C'est pour cette raison qu'une vision du progrès qui se fonde sur la résistance contre la domination n'a plus d'appui. Donc, il semble qu'on a déjà réussi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans l'avenir, dans le futur? Mais au même moment, on sait qu'on a des grands problèmes. Donc, on a besoin du progrès. Mais on ne sait plus comment y arriver parce que la résistance contre la domination n'est pas la solution, n'est pas le mot-clé.
Et ça vaut aussi pour aujourd'hui parce qu'il existe à nouveau de nombreux mouvements civiques, notamment qui sont en train de voir ou de revoir le jour, qui en appellent à plus d'égalité, de liberté et de progrès ou de lutte contre ces formes de domination, que ce soit le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, que ce soit des mouvements féministes ou qui en appellent à l'égalité homme-femme, ça continue. Et puis bien sûr l'écologie, vous l'évoquez encore à l'instant. Donc tous ces mouvements-là ne peuvent pas provoquer dans cette résistance à la domination quelque chose qui nous amènerait vers un progrès.
Oui. Et je pense que la situation, je pense que ces mouvements sont très importants et ils font exactement, ils créent la possibilité d'une nouvelle forme de progrès.
Et la possibilité de rendre l'avenir à nouveau désirable, oui, hein, pour reprendre le sous-titre de votre livre.
Oui, exactement. Parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils interprètent la situation actuelle aussi d'une forme d'urgence, sous une forme d'urgence, en analysant et en critiquant des nouvelles formes de domination. Parce que c'est pas la même chose aujourd'hui qu'il y a égalité formelle entre hommes et femmes et égalité légale en droit civique entre les Noirs et Blancs aux États-Unis. Et donc c'est différent de la situation des années 60 quand il y avait inégalité légale et formelle. Mais ça veut dire que le travail est aussi d'un autre type. On ne peut plus s'attendre du progrès automatique dans l'abolition d'une domination formelle. Il faut réinterpréter et lutter dans une situation nouvelle.
Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil. Ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Un frigidaire, un joli scooter, un automixeur et du dinlopilo. Une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau. Une tourniquette pour faire la vinaigrette. Un bel aérateur pour bouffer les odeurs. Des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour deux, et nous serons heureux. Autrefois, s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre, on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant, que voulez-vous? La vie est si chère. On dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Gudule, excuse-toi. Ou je reprends tout ça.
France Culture, invité de cette deuxième partie de la Grande Table, le sociologue allemand Peter Wagner, pour son essai qui vient de paraître à la découverte, Sauver le progrès, comment rendre l'avenir à nouveau désirable.
France Culture, la Grande Table, Olivia Jesper.
Refonder l'idée de progrès, oui, mais comment, Peter Wagner? Pour que ce progrès nouveau, quelque part, puisse se développer, encore faut-il, dites-vous, que les conditions de son émergence soient quelque part réunies. Alors, quelles sont ces conditions qui seraient propices à ce renouveau et comment les créer, les susciter, ces conditions?
Oui, c'est la question clé, peut-être, et c'est pas facile de donner une réponse. Si je reviens sur les aspects qu'on a discutés, je pense à ce moment, le premier problème à résoudre ou l'obstacle à surmonter, c'est de comprendre ce qui a changé, ce qui était erroné avec la conception du progrès qu'on a eu avant. Et ça veut dire, dans certains sens, il faut revenir aux idées des Lumières, mais repenser ce que ça veut dire dans la situation actuelle d'être libre et raisonnable et de utiliser les capacités de raison librement pour améliorer nos sociétés. Et je pense que c'est possible maintenant d'une autre façon, parce que ces formes de domination, ces types de domination formelle ont été abolies dans une grande partie du monde. Ça veut dire, c'est à ce moment qu'on peut repenser ce que ça veut dire d'agir collectivement, de vraiment parler entre personnes égales et libres sur ce qu'on veut faire, comment on veut créer l'avenir. Premièrement, et deuxièmement, comme conséquence, comment on doit analyser critiquement la situation actuelle et identifier les nouvelles situations de domination et de le dénoncer dans une nouvelle façon. Et dans ce dernier contexte, j'essaye de souligner qu'en fait, c'est un vrai travail interprétatif à faire, de voir quelles sont les nouvelles raisons pourquoi il y a domination entre les noirs et blancs, entre les hommes et femmes, après qu'on a réussi d'avoir une égalité légale, formelle. Et deuxièmement, et c'est en contraste direct aussi avec la conception historique du progrès, comment on peut créer des solutions aux problèmes urgents sans tomber dans l'hubris, sans développer des grands projets de transformation de l'homme et de la société qui ont failli dans le passé et qui se sont révélés comme inhumaines, de fait. Et maintenant, comme toujours, il y a la tentation à cause de la grandeur des problèmes, de désigner des grands projets, parce qu'on a la confiance d'être capable de maîtriser la nature et les sociétés. Donc ce sont ces deux aspects, de repenser la conception historique du projet et de créer un progrès dans l'avenir, c'est de analyser et critiquer les nouvelles formes de domination et d'éviter de tomber dans l'hybris.
Et en même temps, vous ne prenez pas une transformation radicale, ou vous ne prenez pas la radicalité. Votre livre fait d'une certaine manière l'éloge de la modération aussi. Hein. Là, on est sur la méthode.
Et oui, vous pouvez le dire. Donc, c'est intéressant d'avoir une discussion là-dessus. Et je pense que dans une certaine façon, ma proposition est radicale, mais il est vrai que c'est une radicalité qui s'oppose à un radicalisme vide qu'on a trouvé historiquement et qu'on voit aussi aujourd'hui. En fait, moi, je pense que...
Où est-ce que vous le voyez aujourd'hui?
Je pense que... Pour ce livre, j'ai relu le très beau texte de Foucault sur les Lumières, la réponse de Foucault à Kant, deux siècles après. Et en fait, il dit, et c'est un peu surprenant si on regarde la réception de Foucault en général, il se dirige contre les projets radicaux et globaux, je pense que c'est sa formule, parce qu'il dit qu'il ne s'appuie pas sur une analyse de la situation actuelle, ils ne font pas l'épreuve de réalité actuelle. Et je pense que, par exemple, pour le dire très clairement, je pense que dans les débats à gauche, il y a cette tentation de développer des projets globaux et radicaux sans épreuve de réalité. Mais je pense que la vraie radicalité, c'est de faire des propos se fondant sur une épreuve de réalité.
Quand vous dites la gauche, ce serait la gauche des gauches. Alors, en Espagne, où vous enseignez, ce serait peut-être du côté de Podemos, éventuellement, quand ce serait en Grèce, plutôt de l'ex-Syriza, avant que Syriza n'arrive au gouvernement, l'extrême gauche en France, peut-être.
Oui, en général, oui. Donc, les situations locales sont totalement très compliquées. et parfois, par exemple, dans Podemos, il n'y a pas vraiment un grand projet parce que c'est pas consolidé comme parti ou alliance, mais dans la gauche Syriza, oui, et dans les partis de la gauche extrême, je connais en France, oui.
Mais c'est intéressant d'en arriver sur ce champ politique parce que le progrès pour vous est quand même encore une idée de gauche ou pas?
Oui. Je pense que la distinction gauche et droite reste importante et l'idée de progrès, l'idée qu'il faut faire quelque chose pour améliorer notre situation et aussi pour effectuer une transformation de la société dans une bonne direction, dans une direction progressive, reste importante.
Mais ça peut être aussi un concept creux pour certains qui aujourd'hui se revendiqueraient notamment non plus de ce clivage gauche-droite mais d'un clivage progressiste-conservateur, ou est-ce que ça c'est un clivage qui peut avoir du sens pour vous?
Oui, je suis moins convaincu de faire un clivage entre progrès et conservation parce que je pense qu'on vit dans une situation où parfois la conservation bien faite fait partie du progrès nécessaire.
Patrick Boucheron, l'un de vos confrères, estime qu'on a abandonné, lui, l'idée de progrès aujourd'hui au profit de celui d'identité. Et que là, dans cette transformation, pas simplement conceptuelle, on l'entend beaucoup en France en ce moment autour des débats qu'il peut y avoir sur la bataille culturelle, sur l'identité nationale, française, culturelle, que tout ça s'est fait au détriment du progrès, ou de cette idée de progrès que vous développez dans votre ouvrage, Peter Wagner. Ça, c'est une position réactionnaire, quelque part, remplacer le progrès par l'identité?
Oui, je crois, ça dépend de ce qu'on veut dire par réactionnaire, parce que c'est un terme qui a eu beaucoup de sens après la période révolutionnaire de la fin du XVIIIe siècle, parce que la réaction, c'était ceux qui étaient contre la révolution. Aujourd'hui, on n'a pas de révolution, donc ce qui est réaction, c'est plus difficile à définir. Mais en général, je suis d'accord, parce que le débat sur l'identité sert à très peu pour résoudre les problèmes qu'on a, parce qu'il n'y a pas de bonne raison pourquoi ce serait plus facile à résoudre les problèmes qu'on a si on se centre sur une identité collective qui est présupposés plus que réels normalement. Et par les grands problèmes, je parle de des problèmes de la situation écologique du planète, je parle de des inégalités sociales, de la situation des migrants, des crises, des guerres et violences. L'identité sert à très peu ou rien pour approcher et résoudre ces problèmes.
Peter Wagner, si vous appelez à sauver le progrès, c'est qu'il est en voie de disparition pour vous. En tout cas, l'idée de progrès, pourquoi ce désir, cette envie de progrès a disparu de l'agenda politique, d'après vous?
Moi, je pense que le désir, en général, peut-être n'a pas disparu. Mais le problème, c'est le manque d'orientation. Et ce manque d'orientation a à faire avec l'existence historique d'un concept très fort du progrès qui nous a guidés pendant deux siècles dans les deux sens, dans une bonne direction aussi, ça a aussi créé des problèmes. Mais la situation actuelle est différente et on n'a pas dit vraiment adieu à ce vieux concept de progrès et ça nous empêche à refonder ce que doit être une nouvelle conception du progrès. Et dans cette situation, nous ne savons pas quoi faire parce que il y a un sens que ce vieux concept ne marche plus, mais il n'y a pas, parce qu'on n'a pas repensé ce vieux concept, il n'y a pas une idée claire sur ce que projet peut dire aujourd'hui. Et ce que je souligne, c'est le besoin d'un concept de progrès, parce que la situation ne peut pas rester comme elle est. Il y a des urgences dans le monde et il faut qu'on progresse dans ce sens. Mais on ne peut pas progresser si on ne réfléchit pas sur les conceptions erronées du progrès dans le passé.
Et en y réfléchissant et en regardant du coup aujourd'hui, Peter Wagner, il y a quand même des transformations majeures aujourd'hui encore. On parle de cette société en voie d'ubérisation, de tous ces secteurs, avec notamment ce qu'on appelle des points disruptifs, c'est-à-dire des ruptures quand même importantes qui sont en train de se faire. Là, on ne peut pas dire qu'il y ait totalement absence de progrès, mais pour vous, il y a quoi, des nouvelles formes de domination ou est-ce qu'à travers ça, on pourrait s'orienter vers l'idée d'un bon progrès? Et là, c'est peut-être dans l'articulation entre l'individuel et le collectif qu'il faut trouver la réponse.
Oui, oui, je pense que si vous utilisez cet exemple, je pense qu'un des grands problèmes qu'on a, surtout dans le monde occidental, un peu moins dans le reste du monde, mais il y a des interconnexions aussi, c'est une imbalance entre les capacités individuelles et aussi, important, de la justification pour les libertés individuelles aux dépenses d'un sens du collectif et d'un sens que il y a beaucoup de choses, beaucoup des aspects de la situation actuelle qu'on ne peut que adresser à travers une réflexion et action collective. Mais l'action collective est beaucoup discréditée. Donc c'est très difficile à mobiliser avec des justifications pour des actions collectives. Donc toute la crise qu'on met dans le contexte du néolibéralisme, dans le déclin de la capacité des États et des démocraties, a à faire avec ça, je pense, parce que c'est très facile aujourd'hui de revendiquer quelque chose qui peut être considéré comme un droit individuel. Mais il est beaucoup plus compliqué de raisonner en termes de la nécessité d'un agir collectif.
Merci beaucoup, Peter Wagner. Sauver le progrès, comment rendre l'avenir à nouveau désirable. Un ouvrage paru à la découverte dans la collection L'horizon des possibles. Merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Claire Maillot, Clémence Marie, Inès McGriff, côté fille, à Henri Leblanc et Jean-Christophe Brianchon, côté garçon. Un grand merci aussi à Farah Kéram sur le fil des réseaux sociaux, à Père et le Gras pour sa réalisation avec Anthony Thomasson. La Grande Table, je vous le rappelle, se retrouve aussi sur sa page, sur franceculture.fr, les références des ouvrages de nos invités, mais également la possibilité pour vous de nous laisser vos messages. Merci à tous.